le bonheur de paraître devant celui qui était, qui est et qui vient, le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui est au commencement de tout, qui est l'alpha et l'oméga. Quelle gloire pour nous de le connaître, de marcher avec lui. La gloire à Dieu. Nous allons nous préparer à recevoir sa parole, mais avant cela, nous aimerions une fois de plus prier, implorer sa grâce, demander à son esprit de disposer nos cœurs à recevoir sa parole, disposer nos cœurs à ce que cette parole puisse être bien reçue, qu'elle trouve de très bonnes dispositions dans nos cœurs, car c'est alors seulement que cette parole germera et finira par produire du fruit pour la gloire du Maître. Quel bonheur pour nous, Seigneur, d'avoir passé ces moments en ta présence. Seigneur, ces moments qui nous ont permis de nous approcher avec assurance, avec certitude, Seigneur, et de nous incliner, de nous prosterner devant toi pour te rendre ce qui t'est dû de toute éternité. Merci d'avoir une oreille attentive à nos prières qui sont montées vers toi comme du parfum de bonne odeur. Merci, ô Dieu, d'avoir accueilli notre louange et notre adoration. Ô Dieu, si nous avons pu nous exprimer, si nous avons pu, Seigneur, t'adorer, si nous avons pu faire monter vers toi, ô Dieu, notre louange comme une offrande que tu agrèges, et c'est parce qu'un jour, nous t'avons rencontré, parce qu'un jour, Seigneur, nous t'avons ouvert notre cœur, tu es venu en nous, et par ton esprit, tu nous as régénérés. Par ton esprit, Seigneur, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Par ton esprit, nous sommes devenus vivants. Seigneur, et par conséquent, nous pouvons interagir avec toi par le même esprit par lequel, Seigneur, tu nous as régénérés. Merci pour toutes ces marques d'amour. Seigneur, pour ta disposition à recevoir, à nous accueillir, Seigneur, à chaque fois que nous amorçons ces démarches par la foi et en nous appuyant, ô Dieu, sur l'œuvre incommensurable et singulière que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Merci pour tout. Après donc ce moment, nous voulons te demander, ô Dieu, et nous te demandons de nous parler, de déposer quelque chose de flamboyant, quelque chose d'étincelant, quelque chose d'incandescent, de vivant, de brûlant dans nos cœurs, afin de nous transformer à ton image et de nous faire ressembler à toi. Car tu poursuis un objectif en nous, Seigneur, c'est de nous transformer en ton image et ce, de gloire en gloire. Merci pour tout. Parle-nous et pose ta main sur ton serviteur et donne-lui d'être simplement un outil entre ta main pour, Seigneur, la croissance de chacun de nous, pour l'édification de ton corps, de ton Église. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons donc continuer avec notre thème commencé le dimanche dernier, à savoir une vie de gloire en gloire, une vie qui va crescendo, qui va de montée en montée, une vie qui tend vers des sommets divins. Alléluia. Car la vie que le Seigneur nous donne est une vie qui n'est pas appelée à rester statique, stagnante, à connaître une sorte de statu quo, mais plutôt une vie qui est appelée à aller de rivage en rivage, de rive en rive, à passer par toutes sortes de saisons différentes les unes des autres. Et tout cela afin de nous amener vers le but suprême. Gloire à Dieu. Nous allons donc relire nos deux passages, à savoir Jérémie et 1 Corinthiens. Nous commençons avec Jérémie, chapitre 48. Là, je suis pris au nez, là. Donc, si vous m'entendez renifler, c'est que depuis quelques jours, plusieurs jours déjà, donc j'ai un problème avec mon nez. Mais enfin, le Seigneur va nous aider. Donc 48, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, et puis verset 29 à verset 30, et puis ensuite nous lirons le verset 42. « Commençons donc au verset 11, qui nous décrit donc la condition, hélas, de Moab. La Bible nous dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre, d'un vase dans un autre, et n'est pas allé en déportation ou en exil. Et la conséquence, aussi son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici que le jour vienne, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses récipients ou ses vases et feront éclater ses outres. Verset 13, Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, objet et de sa confiance, qui mange donc la divinité principale des Moabites. Versets 29 à 30, nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême. Son arrogance, son orgueil, sa fierté et son cœur altier ou hautain. Je connais, oracle de l'Éternel, son courroux, mais il est vain, ses prétentions, ses œuvres vaines. Et le verset 42, Moab sera détruit, il ne sera plus un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. Il y a plusieurs principes dans la vie, et notamment celui qui nous dit qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Et comme nous allons le voir, en essayant de dresser un tout petit peu le tableau de Moab, eh bien Moab a joué avec le feu, il va finir par le payer très cher. Et gloire à Dieu. Une vie de gloire en gloire. Je l'ai souligné en introduction la fois dernière, qu'il est toujours important, qu'il est toujours nécessaire de savoir à quel genre de vie le Seigneur nous appelle. Important de savoir quel est l'idéal de la vie chrétienne pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans la confusion, comme c'est le cas pour beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Connaître le but suprême de la vie que nous avons en Christ, de la vie de Dieu dans notre marche avec nous. Il est donc important de vivre avec une image de la vie chrétienne qui repose entièrement et totalement sur la parole de Dieu. Si nous voulons demeurer, mes amis, dans la volonté du Seigneur, car nous pourrons se retrouver dans le ciel du Seigneur que ceux qui demeurent dans sa volonté. Oui, si nous voulons demeurer pleinement dans sa volonté et avoir ainsi la certitude, l'assurance de le voir le jour où il reviendra, ou alors de vivre ad vitam aeternam dans son ciel de gloire, eh bien nous devons savoir quel est le but suprême, le but ultime de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Et à ce stade, nous pouvons nous poser cette question. Elle est fondamentale. Alors que la séduction bat son plein, alors que l'Église du Seigneur, semblable à une barque en eau trouble, en haute mer, est de plus en plus ballottée par toutes sortes de vagues démoniaques, tangue à cause des faux enseignements, à cause des hérésies de tout genre, il est donc important que nous comprenions, que nous sachions le but ultime que le Seigneur poursuit lorsqu'il nous a attirés à lui, lorsqu'il nous a délivrés des ténèbres et nous a fait entrer dans sa lumière, lorsqu'il nous a fait passer de la mort à la vie. Nous l'avons vu la fois dernière, et l'apôtre Paul est clair lorsqu'il écrit aux Romains en leur disant, car ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Alléluia. Il les a prédestinés. Il les a appelés, mes amis, à tendre vers l'image parfaite du Christ. Il les a appelés à aller de gloire en gloire pour ressembler davantage à Christ et à Christ seul. Quel est donc le but ultime de la vie spirituelle que nous avons en Christ? Quel est donc le but de notre marche avec Dieu? Nous rendre semblables à Christ, nous faire ressembler à Jésus alors que nous poursuivons notre voyage ici-bas vers l'éternité. Et au fur et à mesure que notre ressemblance à Jésus-Christ s'affirme, mes amis, nous découvrons alors notre vraie identité et la personne que Dieu nous appelle à être. Voilà, c'est si simple. Mais aujourd'hui, toutes sortes d'enseignements traversent l'Église, des enseignements qui mettent beaucoup d'accent sur les bénédictions matérielles, voyez-vous, au point où beaucoup d'hommes et de femmes sont distraits. Au lieu de chercher à connaître la volonté de Dieu, au lieu de demeurer dans la volonté de Dieu, au lieu de se laisser émonder, façonner, mes amis, par le Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes, eh bien, étant distraits, ont tourné le dos à ce travail de sanctification pour se jeter dans les bras des sirènes de la prospérité et autres. Ressemblez à Jésus. Mettez bien cela dans la tête. Et tout ce que le Seigneur permettra dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, n'aura pour objectif ultime que de nous faire ressembler à Jésus et à Jésus seul. Et ressembler à Jésus est une expérience qui est donc appelée à durer toute la vie. On ne ressemble pas à Jésus après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, après avoir été au sommet je ne sais de quelle montagne, et puis on redescend, on dit voilà, c'est fini, je ressemble à Jésus, je peux croiser les bras et attendre son retour, ou alors attendre qu'il me reprenne. C'est un travail, mes amis, qui va durer tant que nous resterons dans ce corps de chair. Alléluia. Nous resterons perfectibles. Car la destination, eh bien, c'est la ressemblance. Et peu importe le nombre d'années que nous aurons vécu sur cette terre, que nous vivions 50, 80, 90 ou 100 ans, laissez-moi vous dire une chose, que ces nombres d'années-là sont amplement insuffisants pour nous amener à une image parfaite. C'est lorsque nous aurons quitté ce corps, au terme d'une vie marquée par la sainteté, par la crainte de Dieu, quand nous aurons quitté ce vase d'argile et que nous serons partis chez lui, alors nous le connaîtrons comme nous aurons été connus, alors nous serons comme lui. Alléluia. En attendant, eh bien, nous sommes sur le chemin de la sanctification. Et ressembler à Jésus, c'est être transformé, métamorphosé en son image par le Saint-Esprit et ce, de gloire en gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme nous l'avons lu, nous tous, dans 1 Corinthiens 13, nous tous qui les visages dévoilés, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, eh bien le résultat, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Contemplez la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Et le résultat, c'est que nous finissons par être transformés de plus en plus en son image. Et ce travail de transformation est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas le produit d'un quelconque effort religieux. C'est là que nous devons apprendre à marcher par l'Esprit, apprendre à vivre selon la parole de Dieu, à reposer nos vies sur la parole qui reste et demeure, le socle, le rocher, le roc inébranlable de la vie. Et une vie transformée en l'image du Seigneur, comme nous l'avons souligné la fois dernière, est une vie qui va de croissance en croissance, une vie qui connaît et donc une progression normale, une vie qui monte et monte encore, une vie qui tend vers des sommets. Vous voyez, mes amis, dans ce genre de vie, il n'y a pas de place au statu quo, il n'y a pas de place à un point mort, quel qu'il soit, un temps mort, quel qu'il soit, il n'y a pas de place à une sorte d'existence figée, une vie qui stagne, pas du tout, mais une vie qui va crescendo, et gloire à Dieu. Une telle vie est une vie qui déborde d'énergie. Une telle vie est une vie qui déploie de l'énergie, une vie active, avec plus d'ardeur physique et spirituelle. Et tout cela, mes amis, dans un monde qui nous est hostile. Alors, comment gagner en force? Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Car n'oublions pas que l'homme est un tout. Il est corps, il est esprit, il est âme. N'est-ce pas? L'homme est un tout, et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi dès le départ. Voyez-vous, à la mort, ce corps marqué par le péché retourne à la poussière, et l'âme passe dans l'éternité. Voyez-vous, et pendant ce temps, l'homme est comme incomplet, entre guillemets. Voilà pourquoi il y aura la résurrection, et nous aurons de nouveaux corps. Car l'homme ne peut pas être envisagé simplement comme âme-esprit. Il est âme, esprit et corps. Et la Bible nous dit, ne savez-vous pas ceci? C'est dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas ceci? Écoutez bien. Votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez, du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans notre esprit et dans notre corps. Ça veut dire que nous avons le devoir de prendre soin de ce corps. Voyez-vous, si nous voulons connaître un bon épanouissement, même sur le plan spirituel, c'est notre devoir, ne méprisons pas ce corps. Je sais qu'il y a des enseignements qui sont fortement influencés par des croyances hindoues qui présentent le jeûne comme une sorte de mortification, en disant « je dois faire mourir ce corps ». Voyez-vous, attention, ce corps reste le temple du Saint-Esprit. C'est la tendance du péché en nous que nous devons faire mourir. Donc attention, nous avons le devoir de prendre soin de ce corps. Et quand vous prenez la résolution de vous lancer dans une activité physique spirituelle, et plutôt physique et régulière, eh bien vous êtes en train d'honorer ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut, pour gagner de l'énergie, en dépenser. C'est en déployant de l'énergie que nous en gagnons davantage. Et cela est aussi vrai sur le plan spirituel. Sur le plan physique, je ne voudrais pas revenir sur ce que j'ai dit la fois passée, et donc l'activité physique, on souffre, on soumet le corps à la résistance, c'est seulement à ce prix que ce corps, mes amis, va devenir fort. Vous voyez, le vendredi, je posais la question aux gens qui étaient là, pour savoir qui avait pris la résolution de se mettre à marcher, de bouger, et beaucoup avaient levé leurs mains. Gloire au Seigneur. Vous devez bouger, voyez-vous, car l'immobilisme, l'inaction, la sédentarité n'est pas du tout bonne pour le corps de l'homme. C'est comme ça que beaucoup ne sont pas en forme. Beaucoup dorment mal. Beaucoup n'ont pas d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils accumulent, et ils ne dépensent pas cette énergie. Plus nous dépensons cette énergie, plus nous en gagnons. Alléluia. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Et nous sommes donc posés cette question. Comment gagner en force? Car pour avancer dans un monde qui nous est hostile, alors que nous sommes soumis à toutes sortes de pressions, Il faut être fort, oui ou non. Il faut aller à contre-courant. Et je vous dirais que dans ce temps de la fin, eh bien, les courants mondains sont de plus en plus forts. Vous ne pouvez pas par vous-même résister à ce courant. Vous serez tout de suite emporté. Donc ne vous étonnez pas de voir aujourd'hui des gens qui hier étaient très engagés dans le Seigneur, étaient passionnés pour le Christ, qui hier étaient des chrétiens, des chrétiennes remplis du Saint-Esprit, mais aujourd'hui ils ne sont plus nulle part. Attention, par nous-mêmes nous sommes incapables, mais avec lui nous pouvons tout. Alléluia. Oui, dans la vie, la seule manière de croître, et nous voulons croître sur le plan spirituel, nous voulons progresser sur le plan du spirituel, partir d'un plateau vers un autre plateau, d'un palier à un autre palier, et ce en montant, la seule manière de grandir, d'être fort, comme nous l'avons vu, c'est de se heurter à la résistance, c'est d'affronter les épreuves, de rencontrer des problèmes, de passer par des moments d'adversité et des moments de détresse. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup évacuent l'adversité, les épreuves, les problèmes de leur vision de la vie chrétienne. Ainsi, on se retrouve avec une image de la vie chrétienne tronquée, galvaudée, estropiée, qui amène les gens, hélas, sur des voies détournées dont l'issue, c'est la mort et la destruction. Connaître des problèmes, confronter ou affronter les épreuves, passer par des moments d'adversité, eh bien, cela est dans le plan de Dieu. Si tu passes par des moments difficiles maintenant, rends grâce à Dieu, même en pleurant, comme nous allons le voir avec la vie de Moab. Rends grâce à Dieu. Continue à résister. Continue à verser les larmes. Continue à affronter cette résistance qui est de plus en plus forte, car c'est seulement à ce prix-là que votre foi va grandir, que l'homme intérieur en vous sera de plus en plus fort. Comme le corps physique qui devient fort lorsqu'il est soumis à la résistance. Gloire au Seigneur. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Jacques nous exhorte en disant « Considérez, bien-aimés, comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être soumis. Les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer. Considérez-les comme un sujet de joie complète. » Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous devons passer absolument par là. En d'autres mots, l'une des façons dont Dieu nous amène à déployer de l'énergie et ainsi devenir fort, c'est de permettre aux épreuves de nous frapper. Voilà. Dieu n'est pas sadique. Il n'éprouve pas un malin plaisir à nous voir pleurer, à nous voir tourner en rond, à nous voir victimes de l'injustice, victimes de la corruption, à nous voir passer de plus en plus de temps dans le désert, privés de beaucoup de choses. Non, mes amis, mais il sait que le passage par le désert est indispensable, car au sortir du désert, nous ne serons plus les mêmes. Gloire à Dieu. C'est ici que l'histoire de Moab, l'ancêtre de Moabite, devient plus qu'intéressante. Attardons-nous maintenant sur Moab. Moab. D'abord les Moabites, parce qu'ici on utilise le nom de l'ancêtre pour parler de ses descendants, donc les Moabites. Les Moabites sont les descendants de Lot, c'est-à-dire le neveu d'Abraham, rappelez-vous, lorsque Dieu parle à Abraham, qui lui demande de quitter Ur dans Chaldée, son pays, sa patrie, sa famille, eh bien Abraham va embarquer son neveu parce que son frère, c'est-à-dire le père de Lot, était déjà mort. Eh bien, Moab est un descendant de Lot, hélas. Hélas, un descendant qui a vu le jour par une relation incestueuse entre Lot et la fille aînée ou l'aînée de ses filles. Vous pouvez lire ça dans Genèse 19, on n'a pas le temps, 30 à 38. Et les Moabites vont présenter un réel problème pour les Israélites. D'ailleurs, dans Nombre 25, dans le 3 premiers versets, nous voyons que les Moabites, les descendants de Moab, avaient donc entraîné le peuple d'Israël dans la débauche. Les filles de Moabites avaient fini par séduire le peuple d'Israël, les hommes israélites, à les entraîner dans la débauche et plus tard dans l'idolâtrie. Voilà un tout petit peu l'origine de Moab. Dont il n'en demeure pas moins, c'était les descendants du neveu d'Abraham. Alors au verset 11 que nous avons lu, de Jérémie 48, le prophète nous décrit la condition de Moab. Il nous est dit Moab était tranquille, était calme. Depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre, il n'est pas allé en déportation ou en captivité ou en exil. Aussi, et ça c'est la conséquence, son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. J'essaie de voir un peu le texte hébreu pour le traduire littéralement. Le texte, la traduction littérale nous dit ceci. Sans souci, Moab, dès sa jeunesse, est tranquille, lui, sur sa lie. Il était sans souci. Il est arrivé un moment où il n'avait plus de soucis. Il était tranquille. Vous voyez, lui, en reposant sur sa lie. Et la lie, comme nous l'avons vu, comme beaucoup d'entre nous le savent, c'est le dépôt qui se forme dans les liquides fermentés comme la bière, comme le vin. Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a des résidus qui traînent dans le fond, soit du vin ou de la bière, c'est ce qu'on appelle la lie. Donc, que nous dit le prophète? Quel tableau nous dresse-t-il par rapport à Moab? Tranquille depuis sa jeunesse. Un. Il reposait sur sa lie. Il n'est pas allé en exil. Il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre. Il n'a pas connu le transvasement. C'est-à-dire, cette opération qui consiste à prendre un vase avec le liquide qu'il y a, le vin ou la bière, peu importe ici le vin, à le transvaser, à le vider dans un autre vase, et à chaque opération, il y a une partie de la lie qui disparaît, et d'autres impuretés. Et lui donc n'a pas connu cette opération. Et la conséquence de son état, c'est que son goût lui est resté. Son odeur ne s'est pas changée. Il est resté tel qu'il était. Son odeur et son goût n'ont pas été transformés. La Bible est claire. Si son goût et son odeur auraient dû être transformés par le transvasement, par le fait d'être vidé d'un vase, d'être versé d'un vase dans un autre, eh bien nous pouvons conclure alors que l'odeur et le goût de Moab n'étaient plus bons aux yeux du Seigneur, aux yeux de l'Éternel. Si ça n'était plus bon, donc son goût n'était plus agréable, son goût n'était plus bon. Un goût qui n'est plus agréable, qui n'est plus bon, est un goût qui est devenu amer, hein, aigre ou acide, parce que ce n'est plus bon. Son odeur, la même chose, ce n'était plus une odeur agréable, pas bonne du tout. C'est devenu une odeur nauséabonde, une odeur fétide, une odeur écœurante, répugnante, abominable, immonde, sordide. Voilà, mes amis, la conséquence pour Moab de n'avoir pas été versé d'un vase dans un autre. Son goût et son odeur ont fini par être altérés par la lie sur laquelle Moab se reposait. Et tout cela parce que Moab n'a pas connu le transvasement. Il n'est pas allé d'un vase vers un autre vase. Il est resté dans le même vase. Quelle image terrible de tout ce d'une vie qui se contente simplement du présent, qui reste comme tel, qui connaît le statu quo. Nous reviendrons un peu plus en détail plus tard. Il n'a pas été transvasé d'un vase dans un autre. Il n'a pas connu l'exil. Et résultat, eh bien, son goût et son odeur n'ont pas été transformés. Alors, quelle était la lie de Moab sur laquelle il reposait et pour laquelle il va subir le jugement de Dieu? Eh bien, très rapidement, quelques versets décrivent ce qu'était la nature de cette lie, et par conséquent, la nature de la personnalité, du caractère de Moab. Verset 7 du chapitre 48. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au verset 7? C'est parce que, Dieu s'adresse à Moab, c'est parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et Kemosh s'en ira en déportation avec ses sacrificateurs et avec ses ministres. Tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors. Voilà le premier problème. C'est-à-dire à un moment, Moab a prospéré. Et il a fini par placer sa confiance dans ses richesses. Il a fini par s'appuyer, par avoir comme sécurité ses biens, ses œuvres. Je fais ceci, j'investis là-bas, j'ai construit là-bas et tout ça. Voilà ce qui constitue désormais, eh bien, ma sécurité. Il a reposé sa confiance là-dessus. Eh bien, une confiance en dehors de Dieu, qui reposerait sur nos richesses, sur nos avoirs, sur nos œuvres, est une fausse confiance, est une confiance qui est appelée un jour à disparaître. Car c'est une folie que de se confier dans ses richesses, n'est-ce pas? Eh oui, c'est une folie. Et à ce propos, Job nous donne un bel exemple. Je crois je n'ai pas donné le passage. Job 31, je voudrais que nous lisions ce passage. Écoutez ce que Job dit. Job 31, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Regardez. Si j'ai mis dans l'or mon assurance, si j'ai dit au métal précieux, en toi je me confie, si je me suis réjoui de l'abondance de mes biens, des richesses que ma main avait acquises, si j'ai regardé la lumière du soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, si mon cœur s'est laissé séduire, verset 27, hein, et si mon cœur s'est laissé séduire, verset 27, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée à ma bouche pour un baiser, comme ça, eh bien, il faut savoir que ce geste était un geste d'adoration envers les astres. On adorait la lune, on adorait le soleil et tant d'autres étoiles, et cette adoration consistait aussi, revenait à mettre la main dans la bouche. Vous voyez? Et il dit ça, si ma main s'est portée à ma bouche pour un baiser, et le verset 28, Voilà ce qu'il dit. C'est encore une faute passible de jugement et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Vous voyez? Si j'avais placé ma confiance dans l'or, si je m'étais appuyé sur mes richesses, si à un certain moment, je me suis détourné, je me suis tourné vers les astres, l'horoscope, et j'ai placé ma confiance dans ces astres, en me laissant manipuler par tous ces 10 heures de bonne aventure, si j'ai fait tout cela, il dit, c'est encore une faute passible de jugement. Et j'aurais renié. Ça serait un acte de reniement du Dieu d'en haut. Vous voyez? Et ici, Kemosh, plutôt Moab, a fait tout le contraire. Vous voyez, mes amis, ça arrive de manière très subtile. Les bénédictions que le Seigneur nous donne, si nous ne faisons pas très attention, risquent de devenir notre point d'appui. Nous finissons par placer notre confiance dans toutes ces choses-là. Mes amis, Dieu veut qu'en tout et pour tout, il reste la base de nos vies, qu'il reste le rocher de nos vies. Et vouloir se reposer sur ses acquis, sur ses richesses, c'est verser, mes amis, c'est tomber sous le jugement de Dieu. Et Kemosh, plutôt Moab, en est arrivé là. D'ailleurs, 1 Timothée, vous connaissez tout ce passage d'1 Timothée 5, où il met en garde, mes amis, les riches. 1 Timothée 5, verset 17. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il demande à Timothée, il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Alléluia. Voilà. Mettre la confiance dans ses richesses. Ça, c'est le risque. Ça, c'est le danger qui nous guette tous. Quand on est au désert, on a d'autres appuis que le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? On ne sait pas quand est-ce que la manne va tomber. On marche par la foi. On s'attend à Dieu. Quand on est au torrent de Kérit comme Élie, eh bien, on ne sait pas quand est-ce que le corbeau va venir. On sait qu'ils vont venir le soir, ils vont venir le matin, mais on ne sait pas quelle heure. Eh bien, on est là et on attend par la foi. On sait une chose, que je ne mourrai pas de faim, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Et puis un jour, on quitte le désert, puisque nous sommes en marche. Nous allons de gloire en gloire. Nous arrivons dans la terre promise, où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de vergers, où nous pouvons élever. Nous ne nous contentons plus de courir après un lièvre. Nous avons le temps de faire de l'élevage, d'avoir des vaches, etc. Eh bien, c'est là que le danger arrive. C'est d'oublier, mes amis, ce Dieu-là, qui nous a assistés quand nous étions au désert, qui nous a donné ses richesses. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous retrouver à nous reposer sur nos richesses. Et ceci est quelque chose de terrible. Voilà ce que nous pouvons dire. La première chose concernant la lie sur laquelle, eh bien, Moab reposait. Et puis il y a Kemosh, qui était la divinité principale des Moabites. Et Dieu dit dans son jugement, non seulement toi Moab, tu partiras en exil, même ton Dieu, pour montrer que Kemosh, eh bien, est incapable de te sauver en temps de détresse, incapable de te protéger lorsque ma colère tombera sur toi. Oui, beaucoup d'entre nous, Kemosh n'est plus là, ses divinités, etc., mais il y a tant d'idoles autour de nous. Et par rapport aux richesses, mes amis, il y a toujours ce risque de se retrouver à courir après Mammon, le dieu de... Regardez comment les gens se compromettent. Des gens qui autrefois aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Ils étaient toujours présents aux réunions, aux cultes, etc. Ils vivaient par la foi, ils étaient contents. Et puis un jour, Dieu, dans sa grâce, les a bénis. Il les a élevés d'une manière ou d'une autre. Et avec le temps, eh bien, maman, très subtile, a fini par les séduire, par les vampiriser. Oui, c'est ce qui arrive. Et pour Moab, il y a eu l'idolâtrie. Il y a eu le fait de s'appuyer sur ses richesses. Ça, c'est quelque chose de terrible. Car les richesses, mes amis, ne sont pas certaines. Elles sont incapables de nous protéger. On peut les avoir aujourd'hui, et puis demain, tout perdre. Il y a des gens, en un jour, ils se sont retrouvés sans rien. Lorsque la crise avait frappé, je crois, la Thaïlande, enfin, un de ce pays-là, je crois en 2008, ou même avant, j'avais suivi le témoignage d'un homme qui avait beaucoup investi dans l'immobilier. Il avait des hôtels, il avait tout. Vous voyez, donc, il avait reçu des crédits et tout ça, il avait construit des affaires prospérées. Et puis la crise est passée par là, il avait tout perdu. Mais ce qui m'avait interpellé dans son témoignage, eh bien, c'est que cet homme ne s'est pas laissé abattre. Lui, qui roulait dans des grosses bagnoles, qui avait des biens immobiliers extraordinaires, se retrouvait sans rien, mais il s'est dit, je dois quand même vivre. Et il s'est mis à faire des beignets, à vendre des beignets. Vous voyez, mes amis, la vie, tout peut basculer. Alors confie-toi dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Le deuxième élément par rapport à la lie de Moab, c'est le verset 29 et 30. L'orgueil de Moab, nous l'avons lu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le prophète précise qu'un orgueil, extrême, son arrogance, sa morgue, sa fierté, son cœur hautain. Un cœur hautain, c'est un cœur qui manifeste un dédain méprisant vers les autres. Moab est devenu orgueilleux. Moab a cru qu'il était un bâton, un sceptre puissant, un bâton majestueux. L'orgueil, l'arrogance sont des attitudes, mes amis, que Dieu ne peut tolérer. Si le diable est devenu diable, c'est parce qu'un jour, il a voulu être comme Dieu. C'est parce qu'un jour, il a laissé l'orgueil entrer dans son cœur. Dieu est contre. Dieu ne peut tolérer l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil pousse les hommes à s'attribuer des mérites qui reviennent à Dieu seul. L'orgueilleux pense qu'il est au centre de la terre. L'orgueilleux pense que toute sa réussite, c'est à lui seul qui le doit. Alors qu'il oublie que le souffle de vie qui l'anime, la bonne santé dont il a joui, le courage, la force, la détermination dont il a fait montre pour arriver à accumuler autant d'argent, tout cela est venu de qui? Mais l'orgueilleux oublie tout ça. Quand il marche, il a la main dans la poche. Il pense que désormais, il n'y a que lui qui compte. Celui le plus intelligent, le plus sage, le plus clairvoyant, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre solution. Non seulement il connaît les solutions, mais il se présente lui-même comme étant la solution. Vous voyez? Il s'attribue le mérite qui revient à Dieu seul. Nous ne sommes que le produit de sa grâce. Alléluia! Qui que nous soyons, avons-nous fait des études? C'est par sa grâce. Vous auriez pu naître dans une famille très très pauvre. Vous n'auriez pas eu l'occasion de faire les études que vous avez faites. Avant que vous naissiez, il y a quelqu'un qui avait déjà tout préparé. Alléluia. Ses prétentions, le verset 30, ses œuvres vaines. Non seulement l'orgueil amène les gens à s'approprier, à s'attribuer des mérites qui reviennent à Dieu seul, mais l'orgueilleux, où l'orgueil amène les gens à mépriser les autres. Mes amis, tout homme est fait à l'image de Dieu, quelle que soit sa condition sociale. Tout homme est fait à l'image de Dieu, quelle que soit, mes amis, son intelligence. Et tout homme mérite donc respect et dignité. Alléluia. Paul dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Dites-moi. Et Paul d'ajouter, « Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Quand tu n'étais qu'un simple embryon dans le ventre de ta mère, tu ne savais rien, mais lui te connaissait. » Et il a permis que la grossesse aille jusqu'à son terme. Alors que dans le même temps, d'autres enfants avaient été conçus, mais ils n'ont jamais vu le jour. Leurs mamans ont fini par avorter pour telle ou telle autre raison, mais toi tu es né. Et puis tu as eu le parcours que tu as eu. Eh bien, sache que tout n'est que grâce. Et enfin, un autre élément qui constitue la lie de Moab, verset 26 à 40, et le verset 26 et le verset 42, car Moab s'est élevé contre l'Éternel. Littéralement, Moab a fait grand contre l'Éternel. Il a cru qu'il pouvait se mesurer au Dieu des cieux. Il a cru qu'il était un sceptre puissant, un bâton majestueux. Il a osé défier le Dieu d'Israël. Gravissime erreur, terrible folie, et il va le payer très cher. Vous voyez, se croire quelqu'un, essayer de défier le Seigneur. Vous savez, le sceptre comme la couronne. Eh bien, sont des symboles qui montrent que la personne sur la tête de laquelle se trouve la couronne est reine ou roi, n'est-ce pas? Et donc, mais ça serait une folie pour la reine ou pour le roi d'identifier sa vie à cette couronne-là. Parce qu'un jour, le roi ou la reine passeront, et un autre montera sur le trône, et recevra la même couronne. Nous ne sommes que des passages. L'Éternel a donné, et puis un jour l'Éternel reprendra. Mais ce que nous sommes est appelé à demeurer éternellement. Gloire à Dieu. Eh bien, puisque Moab reposait sur sa lie, dont nous venons de voir les éléments, le Seigneur n'avait d'autre choix que de lui faire boire, vous connaissez l'expression, de lui faire boire le calice, jusqu'à la lie, c'est-à-dire lui faire endurer les pires humiliations, le briser jusqu'au bout. Et c'est ce qui va se passer. En d'autres mots, quelle est la solution que le Seigneur a préconisée pour Moab? Eh bien, le verset 12 nous donne la réponse. C'est pourquoi de Jérémie 48, c'est pourquoi, voici que le jour vient, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens, littéralement, je lui enverrai des transvaseurs qui les transvaseront. Ils videront ces vases ou ces récipients et feront éclater ces outres ou ces jarres. La solution pour Moab, c'est le transvasement. Il fallait qu'il soit vidé, qu'il soit versé d'un vase dans un autre. Et c'est seulement à ce prix-là que la lie, ces impuretés résiduelles, allaient disparaître d'un vase dans un autre. Et de cet autre vase dans un autre. Alléluia. jusqu'à ce que tout devienne normal. Le transvasement, le fait d'être vidé d'un vase dans un autre, par l'exil, par la déportation, oh l'exil, c'est pas quelque chose d'agréable. L'exil, c'est l'expulsion ou le départ sous la contrainte de quelqu'un qui quitte son pays, qui quitte sa patrie, qui quitte sa famille, qui quitte ses racines pour aller s'exiler pour une nouvelle vie. L'exil, c'est l'éloignement de son pays. L'exil, c'est la séparation d'avec ceux qu'on a aimés. L'exil, source de stress et d'angoisse. Ceux qui ont connu l'exil savent de quoi je parle. Chez vous, c'est chez vous. Alléluia. Vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Mais en exil, eh bien, ce n'est pas facile. Un jour, j'étais, pour ceux qui connaissent Bruxelles, en gare, dans la gare du Midi, j'allais prendre mon train, et puis je vois un monsieur qui court. Quand je le regarde, je le reconnais. C'était une grande autorité qui était crainte ici. Quand il sortait, il avait du garde-corps. Mais en exil, nous tous, hein, je l'ai vu en train de courir. J'ai regardé, je me dirais, hey, yo. Je l'ai regardé, j'ai dit, la vie c'est de la vanité. Cet homme pouvait-il s'imaginer qu'un jour il connaîtrait une telle humiliation? Eh bien, quelquefois, il faut passer par là. Et je suis convaincu que là, il a compris ce que c'est la vie. Car lorsque tu es assis sur un trône, lorsqu'on te met les chaussures et les chaussettes, lorsqu'on t'habille, lorsqu'on, eh bien, on te met sur un tipoï pour te conduire, on oublie qu'on est sur terre. On oublie qu'on n'est qu'un simple souffle. On oublie qu'on n'est qu'un vase d'argile. On oublie même qu'on a été dans le sein d'une femme, qu'on est né comme tout le monde. Eh bien, Moab devait connaître cela. Il devait être transphasé. Et là, il va connaître les pires humiliations. Il va connaître toutes sortes d'épreuves. Il va connaître l'humiliation. Il va connaître le brisement d'une vie d'exilé, d'une vie de captif. Vous n'êtes pas libre. Vous devez faire la file pour d'abord vous donner un titre de voyage. Et quelquefois, la personne derrière les guichets n'a même pas l'âge de vos enfants. Il n'a qu'un certificat d'école primaire. Mais là, il est en autorité. Et toi, tu fais la file. Tu regardes à gauche, à droite, et tu dis, c'est pas possible. Ces gens, ils ne peuvent même pas arriver à la cheville. Oui, mais ici. Ici, tes titres, ici, tes qualités ne comptent pas. La file comme tout le monde. Et celui qui avait fui, qui vivait à Gili, et toi qui vivais à ma campagne ou à la Gombe, quand vous vous retrouvez en exil, vous êtes tous logés à la même enseigne. Vous êtes tous humiliés. Et quelquefois, lui est devant vous. Vous êtes pressé avec des dossiers. Vous commencez à aller pour le petit. Léki. Ah. Laisse-moi un peu. S'il est plus âgé que toi, grand frère. Ah, maintenant tu reconnais qu'il y a des grands frères. Tu n'avais que 35 ans, mais comme tu occupais des postes, eh bien, devant toi, personne ne comptait. À 35 ans, tu bombais ton torse. Nani, Kaloubi, viens. Ah bon, Kaloubi? Voilà. Ton aîné. Et là, maintenant, en exil, ah, viens. Il faut être transvasé. Oh, alléluia. Moab va connaître très rapidement la destruction, va être dévastée, va finir par vivre la réalité d'une vie brisée. Et c'est ça le transvasement. quand on doit être versé d'un vase à un autre, eh bien, on ne peut pas l'être s'il n'y a pas brisement. Et le brisement est une réalité, on en parlera davantage prochainement. Et à la fin, c'est ce qui est formidable avec Dieu, le verset 47 nous dit, et nous terminons par là, le Seigneur termine cet oracle sur Moab. Il dit, mais, verset 47 de Jérémie 48, mais je ferai revenir les captifs de Moab à la fin des temps, oracle de l'Éternel, tel est le jugement prononcé sur Moab. Mais je ferai revenir les captifs, alléluia. Et quand le captif revient, là il a été brisé. Là, il a compris ce que c'est la vie. Là, il est passé par différentes phases. Il est parti d'un rivage à un autre rivage, et d'un rivage à un autre, d'une rive à l'autre, d'une saison à l'autre, tout change. Il y a des saisons où on se retrouve sans rien. C'est comme un fruit en pleine saison sèche. Voyez-vous, il n'y a pas de fruit, même le feuille sèche, mais l'arbre est là. Et c'est ce qui va arriver. Mes amis, nous devons, pour grandir, pour croître, nous devons passer par cette vie de transvasement. Nous devons être versés d'un vase dans un autre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Merci. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Le transvasement fait partie de ton plan. Seigneur, tu nous appelles à aller d'un rivage à l'autre, d'une rive à l'autre. Tu nous appelles à passer par différentes saisons. Et chaque saison, chaque rive a ses réalités propres. Tu nous appelles, Seigneur, à passer par des épreuves, à connaître toutes sortes de problèmes, à se heurter à la résistance, quelle qu'elle soit. Car c'est la seule manière que tu disposes pour nous transphaser, pour nous verser d'un vase dans un autre, afin que, Seigneur, par et au travers de cette opération, la lie de notre vie, cette lie de méchanceté, d'amertume, d'immoralité, d'idolâtrie, d'orgueil, d'arrogance, de fierté, d'exaltation de soi, oui, afin que cette lie puisse disparaître au fur et à mesure que tu nous transvases. Ou aide-nous à ne pas résister à cette opération. Certes, ça fait mal, Seigneur, car cela implique un brisement, mais nous n'avons pas d'autre choix que de passer par ce brisement. Merci pour tout.